Passion Logement, une émission proposée par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion sur Radio Immo.
Bonjour, et oui, le logement est une passion, est avant tout une passion. Et cette tribune qui vous est proposée chaque mois en partenariat avec la FNAIM est destinée à vous donner les clés de compréhension et les clés de lisibilité, que vous soyez professionnel de l'immobilier, mais pas que, aussi à comprendre la complexité de ce que représente aujourd'hui l'habitat, plus largement d'ailleurs, ce qu'on appellerait plutôt la fabrique de la ville, toujours accompagné de mon fidèle complice, chaque mois que je retrouve avec grand plaisir sur le plateau pour cette tribune, Jean-Marc Torollion, président de la FNAIM. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Sylvain.
Comment allez-vous ?
Eh bien, ça va bien. Je trouve que le beau temps revient. Je sens une forme de détente, donc très bien.
Avec un temps magnifique, effectivement, qui est propice à nous remettre sur le parcours résidentiel, comme dirait l'autre. On sait que c'est une période importante pour l'immobilier. Comme d'habitude, chaque mois, dans cette tribune, ça y est, c'est fait, la nomination du CNTGI est aboutie.
Oui, c'est important de souligner.
CNTGI, on va rappeler, hein, c'est
le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. C'est important de rappeler à nos auditeurs qu'il s'est réuni 51 fois. Qu'il a rendu 39 avis, dont 30 à l'unanimité, 39 avis positifs, dont 30 à l'unanimité. Je dis ça parce que en 3 ans, c'est une réunion toutes les 3 semaines. Donc je sais que certains peuvent être sceptiques sur l'utilité d'un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. Force est de constater que, sous la présidence d'ailleurs de Hugues Périnet-Marquet, qui est reconduit dans ses fonctions, eh bien son travail a été remarquable. Il a notamment soutenu toute la réforme de la copropriété. On a eu Climat et Résilience. Il a fallu aussi prendre des positions sur un certain nombre de décrets extrêmement techniques. Donc je crois que ces travaux ont été de qualité. Et d'ailleurs, Emmanuel Wargon, pour la dernière séance du CNTGI, ancienne formule, est venu souligner l'utilité, son utilité et saluer ses travaux. Je rappelle d'ailleurs qu'à chaque réunion sont présents la DHUP, c'est-à-dire le ministère du Logement, la DACS, c'est-à-dire la chancellerie, et Bercy avec la DGCCRF plus les consommateurs. Le nouveau CNTG est nommé. Il y a 5 postes pour les consommateurs, 7 postes pour les organisations professionnelles de l'immobilier représentative. La Fédération nationale de l'immobilier, qui est la première organisation représentative, a 3 postes. Et donc, nous avons Madame Anne-Sophie Noah pour la FNAIM qui est titulaire. Nous avons également Madame Barek pour Orpi, Corinne Barek, qui est titulaire, et moi-même. Et son suppléant, Loïc Quentin, Véronique Madel-Rieu et Thierry Smadja. Donc nous avons à la fois une parité parfaite, nous avons un équilibre entre groupe, réseau et indépendant. Et c'était à mon sens très important que ça soit l'exact reflet de ce que constitue aujourd'hui notre fédération.
Justement, on va continuer, si vous voulez bien, sur le chapitre peut-être un peu plus politique. Les élections ont eu lieu. Emmanuel Macron reconduit pour un second mandat de 5 ans avec effectivement un deuxième tour et une majorité écrasante, on peut le dire. Est-ce que vous espérez que, que la politique du logement se réinscrive un peu plus dans ce second mandat ? Est-ce que vous avez un vœu à formuler à l'adresse d'Emmanuel Macron et du prochain gouvernement qui va être dévoilé là incessamment ?
Oui, oui, moi je rappelle quand même que globalement les organisations syndicales et pluriannuelles soutenons un vrai ministère de l'habitat qui soit politiquement un rang significatif dans ce gouvernement.
Ça ne prend pas le chemin, hein, apparemment.
Pour assumer. Voilà. Bon. Vous m'avez demandé mon vœu.
D'accord, pardon. Oui,
assumer une politique de la rénovation et une politique de la construction qui est nécessairement, impactante pour la vie des Français. Donc voilà, ce qui nous importe aussi dans ce futur gouvernement, c'est que les opérationnels de terrain que nous sommes sur tous les territoires soient consultés, soient écoutés, soient suivis quand nous pensons que nos formules, nos formulations, nos propositions collent à la réalité concrète des Français, et c'est souvent le cas.
C'est ce qui va vachement se souhaiter d'ailleurs, et nous, je vous le dis les amis, nous, avec Jean-Marc Torollion d'ailleurs, nous suivrons scrupuleusement peut-être un nouveau ministre du Logement souhaité de plein exercice, bien évidemment, pour voir un petit peu toutes ces orientations. Toujours sur le sujet du CNTGI, qui est quand même important, parce que c'est quand même un organe de représentation. Depuis 5 ans, depuis la loi Elan, on peut le dire, devait être instituée la commission de contrôle. Vous savez, une commission de contrôle, vous allez nous expliquer, important. Tout le monde la réclame, à corps et à cri, vous, les organisations professionnelles, les réseaux, mais toujours pas instituée. Mythe ou irréalité ?
Eh bien, moi, j'ai quand même l'impression aujourd'hui que c'est un mythe, alors même que la base légale a été votée au Parlement et que nous souhaitons, nous, ardemment, cette commission de contrôle qui... parachève au fond une construction que nous avons souhaitée et soutenue au travers du Conseil national de la transaction en gestion immobilière qui a la compétence pour tout ce qui a trait à la réglementation des professionnels et la copropriété et la commission de contrôle qui a pour fonction sur saisine d'examiner les éventuels dérapages ou les éventuels comportements qui seraient illégaux par rapport à la loi, et la DGCCRF en est le secrétariat. Et je crois que cette construction-là qui est à mon avis, elle est importante pour crédibiliser l'image de notre profession et pour asseoir définitivement le CNTGI. Alors, pourquoi elle n'a pas été nommée, au fond, oui. Parce que nous l'avons réclamé.
Ça a été institué, c'est le décret qui n'est toujours pas sorti.
Le décret de nomination n'est pas sorti, il y a 5 postes, et évidemment, il faut les répartir entre les 3 syndicats représentatifs de la branche. La Fédération nationale de l'immobilier s'est vue proposer 2 postes, ce qui me paraît normal au regard de son poids et dans la branche et relativement à son poids économique, mais il reste 3 postes à départager entre nos 2 syndicats confrères qui sont l'UNIS et le SNPI, et je crois savoir qu'ils n'ont pas trouvé un accord là-dessus, compte tenu de leur représentativité respective.
C'est-à-dire que l'un en souhaite 2 et pas 1.
Oui, voilà. Qui va avoir un poste, qui va avoir 2 postes, sachant qu'au CNTGI...
C'est sûr que diviser 3 postes en 2, c'est...
Oui, il n'y a qu'à en donner 3 à la FNM, puis on fait 1 et 1 et c'est réglé.
C'est ce que je... Effectivement,
mais au CNTGI, nous avons 3 postes, l'UNIS a 2 postes et le SNPI 2 postes. Donc là, effectivement, il y avait une parité, on va dire, entre les 2. Alors, c'est dommage, parce que je crois que ce qui va se passer, c'est que le gouvernement va nommera vraisemblablement
d'office.
Voilà.
Et compte tenu des 2 sièges que vous avez d'ailleurs, pour rappeler que les 2 sièges vous les avez parce que le niveau de représentation de la FNAIM vous permet donc d'avoir ce top 3. Hein,
oui, c'est ça, avec nos 43 000 salariés, nos 10 000 établissements, nos 6 403 entreprises aujourd'hui, on en a près de 7 000.
La moitié de la branche à peu près.
Ça représente sur le plan salarial la moitié de la branche.
La moitié de la branche,
voilà.
Donc. Ouais, mais, donc c'est très significatif.
Mais en revanche, le décompte sur le nombre d'entreprises pose un sujet parce que nous n'avons pas compté les auto-entrepreneurs, agents commerciaux dans nos effectifs. Nos 2 confrères syndicats les ont comptés. Et évidemment, ça fait un volume d'entreprises qui, corrélativement, est beaucoup plus important que celui de la FNEM. Et ils estiment qu'au regard de ces volumes-là, même s'ils ont beaucoup moins de salariés, 2 fois moins que la FNIM en moyenne, chacun, ils devraient avoir un nombre de postes qui soit le reflet de cette représentativité d'entreprise.
Alors, sujet toujours dans l'actualité, on va dire, des jours. Actualité un peu moins drôle, on peut le dire. Je sais que vous avez un litige, on peut le dire, un litige avec Matera.
Oh ben on n'en a pas qu'un, finalement, quand on regarde bien les choses.
Vous invoquez l'article L122-5, c'est bien ça ?
Du Code de la Consommation.
Du Code de la Consommation. Et en fait, vous avez demandé à Matera de produire un certain nombre d'éléments justement sur leur communication, sur la façon dont ils communiquent. Vous rappelez que Matera propose une solution alternative aux conseils syndicaux, où on peut la faire court. Plutôt que prendre des syndics établis, vous pouvez vous en passer, enfin, je simplifie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte, justement, de cette demande que vous avez formulée à l'encontre de Matera ?
Oui, enfin, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, Matera, c'est une plateforme d'assistance aux syndics bénévoles dans les syndicats coopératifs. Ce que nous reprochons à Matera, c'est une forme de communication de dénigrement et aussi d'ambiguïté dans sa communication qui laissait présager qu'elle était un peu syndic. Vous savez qu'en première instance, elle a été condamnée au tribunal de commerce sur une action de la Chambre du Grand Paris, de la NGC et de Foncia. Nous avons nous-mêmes, UNIS et FNIM, une action similaire devant le tribunal de grande instance. Matera a fait appel et à la suite, corrélativement, Matera sort maintenant un classement des syndics dans lequel il s'inclut fort opportunément, et j'allais dire plutôt à un niveau correct, et ce classement, on ne sait pas d'où ils le sortent. si ce n'est que nous avons reçu un courrier de l'ANA nous donnant assurance que en aucun cas les données de ce classement sont issues du registre de la copropriété, ce dont nous doutons un petit peu, mais nous exonérons l'ANA naturellement de toute responsabilité. En revanche, moi, je veux savoir, et j'ai le droit de savoir, comment, dans le cadre d'une publicité comparative, et c'est le terrain sur lequel nous nous situons, objectivement, Matera a construit ce pseudo-classement qui d'ailleurs ne concerne que certains syndics dans certaines régions et pas partout.
Voilà. Parce que comme par hasard, Matera s'est mis au premier niveau.
Et ben, comme par hasard, là où Matera est une plateforme d'assistance aux syndics bénévoles, eh bien, le classement est plutôt bon. Hein, on a des lettres A, B, C, D, E, F, G, voilà. Un peu comme le DPE finalement. Oui. Hein, voilà. Et donc, alors. C'est assez astucieux, ça fait un peu de buzz. On se pose finalement en juge et partie. Oui.
Parce que ce qui vous gêne, c'est la profession. C'est la véracité de l'info ou c'est la façon dont c'est construit?
Bah, la façon dont c'est construit, c'est sûr, parce que je pense qu'ils auront beaucoup de mal à le justifier.
Donc pour vous, la méthode
est et donc la véracité de l'info par conséquence. Et puis enfin, moi, j'ai envie de dire à Matera, prouvez-nous notre valeur ajoutée sur le terrain avant d'essayer de dénigrer les syndics en place. Parce que les retours terrain, on commence à en avoir.
Parce que vous aviez déjà gagné, on peut le dire. Ouais. Il y a quoi, quelques semaines, un jugement a été
voilà. rendu. Voilà, ils ont été condamnés pour tromperie vis-à-vis du consommateur. Ce qui n'est pas le cas des syndics, que je sache.
Non,
voilà.
Oui, d'accord.
Donc, mais j'ai envie de dire à Matera, prouvez votre valeur ajoutée. Parce qu'on commence à avoir les premiers retours. C'est-à-dire qu'on a les allers-retours. Mmh. On a des confrères qui, au bout d'un an, ont récupéré un immeuble qui était passé chez Matera. Donc, on voit que les choses sont beaucoup plus difficiles. Ce qui m'étonne, parce qu'on a quelques exemples, c'est l'agressivité. Mmh. Et cette agressivité, vous ne pouvez pas m'empêcher de penser qu'elle résulte d'une fébrilité. Et l'agressivité de cette façon-là, c'est finalement un aveu de faiblesse, peut-être par rapport à un développement qui n'est pas au rendez-vous. Moi, je serais Matera, je ferais moins de bruit, plus de travail, et une démonstration de terrain de la qualité de ce qu'ils proposent à ceux qui... bénévolement, en qualité de syndic, choisissent cette forme d'assistance.
Ce courrier a déjà été...
Le courrier est parti. Il est parti la semaine dernière. On va pas...
D'accord. S'il faut aller devant un tribunal, vous irez.
Bien sûr.
D'accord. Dans le même registre, je voulais juste vous interpeller. Je vous en ai parlé avant de préparer cette émission. Vous étiez d'accord versus de la publicité de Bellman. Alors Bellman, la particularité, vous l'avez rappelé à juste titre, qu'ils ont une carte de syndic. Ils sont donc syndic professionnel.
Oui.
Quand on voit leur communication, on ne peut pas dire que leur esprit de confraternité, si je peux me permettre, règne beaucoup.
Non, parce que finalement, il y a une profonde... En plus, je pense qu'il y a une erreur importante dans cette communication. C'est le dénigrement du copropriétaire lui-même. Que l'on habille en sadomaso et le dénigrement du fournisseur.
Oui,
voilà.
C'est sûr.
C'est-à-dire que le syndic c'est est sûr. Au milieu, mais finalement, on est en train de dire à des ascensoristes qu'au bout de 6 mois, ils sont incapables de réparer un ascenseur.
C'est ce qui est faux.
Qui ai participé récemment au congrès des ascensoristes, c'est une profession formidable, de petits et de grands d'ailleurs, qui a pu se démontrer qu'ils étaient présents même pendant la période de confinement et qu'ils ont assuré l'entretien de nos ascenseurs à ce moment-là. Ça fait partie de ces deuxièmes lignes que j'ai saluées d'ailleurs. Et je pense qu'on n'a rien à gagner à dénigrer nos fournisseurs, à faire une hypothèse que nos copropriétaires seraient des sadomasos et qu'au milieu, le syndic serait le chef d'orchestre de tout cela. C'est un phénomène un peu parisien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en préoccuper, mais je trouve que la réponse serait pour autant assez facile de la part des syndics, c'est de donner en temps réel les dépannages, c'est-à-dire la durée que prend un dépannage. Et comme elles sont contractualisées, c'est contractualisé, voilà. Donc, c'est presque même mal connaître le syndic. Alors, on peut pas... Je pense qu'il faut... comme je viens de le dire, on peut aussi réagir au quart de tour sur tout, mais parfois, les chiens aboient et la caravane passe.
Ça sera donc à suivre, bien évidemment. On suivra le bruit de la caravane. Deux derniers sujets qui sont d'ailleurs assez, assez corrélés quand on y réfléchit. Nous entrons dans une période qui est une période sympathique. Printemps, été, chaleur d'ailleurs écrasante cette semaine. Une augmentation au mois de mais de l'inflation très significative. Il faut remonter à il y a plusieurs dizaines d'années, plus de 30 ans, pour avoir une inflation à 5,2%. 5,2, 5,4, communiqué. Des taux d'intérêt sur des périodes à périmètre constant qui ont quand même augmenté pour certains de façon significative. On prend des exemples sur des prêts à 15 ans ou sur 20 ans avec des augmentations de 0,2, 0,3, voire 0,4 % dont, sur lesquels on peut s'inquiéter. Deuxième point, c'est l'octroi de crédit qui reste aujourd'hui difficile à obtenir puisqu'effectivement exigence des apports de plus en plus significatifs et voire même restriction de l'octroi des crédits par les banques dans lequel, et c'est nouveau, ils intègrent même maintenant le coût de l'énergie dans le reste à vivre des ménages. Inflation versus taux, pourtant les chiffres se portent plutôt très bien. Le deuxième trimestre et le deuxième semestre s'annoncent quand même assez significativement positifs. Je sais que vous en êtes beaucoup, vous avez beaucoup publié sur cette question. Quelle est votre analyse, Jean-Marc Torollion, à l'aune justement d'une inflation jamais constatée jusqu'à aujourd'hui? Concrètement, est-ce que c'est la fin d'un cycle? Est-ce qu'on va entrer dans un cycle plus dur, plus difficile, avec une crise de l'offre, pas une crise de la demande, mais vraiment une crise de l'offre majeure dans notre pays, indépendamment des chiffres de la construction neuve qui sont quand même dramatiquement bas? Jean-Marc Torollion, est-ce qu'on peut toujours emprunter aujourd'hui? Est-ce qu'il faut toujours emprunter? Est-ce qu'il faut dire à nos auditeurs qu'il faut continuer à aller sur leur projet immobilier?
Alors, est-ce qu'il faut toujours emprunter? La réponse est oui. Particulièrement en moment d'une inflation élevée, car comme vous l'avez souligné, en réalité, emprunter en dessous de l'inflation, c'est emprunter à taux négatif, pour peu que la politique salariale suive, ce qui semble être le cas pour l'instant.
Voilà.
Mais incontestablement, mathématiquement, si vous voulez, c'est plutôt intéressant. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que au regard de la faiblesse de la rémunération de l'épargne, protéger son épargne de l'inflation, c'est investir dans l'immobilier, ça a toujours été le cas. Bien. Quand on a dit ça, on se rassure. Mais moi, j'ai envie aussi d'être beaucoup plus global. On a quand même des nuages qui arrivent un petit peu partout. Ces nuages, c'est un ralentissement global de l'économie. C'est quand même une facture énergétique et une facture de la rénovation qui est de plus en plus chère.
Un pouvoir d'achat qui a...
Et quand les banques regardent un petit peu le coût de l'énergie, c'est quand même aussi un sacré signe que le classement énergétique du bien que l'on va acheter peut prendre de l'importance. Il n'y a pas que cela que les banques regarderaient. Elles regarderaient également les coûts des transports entre domicile et travail.
Carburant,
au regard du carburant. Donc, on voit bien se mettre en place, au fond, peut-être un certain nombre de signaux avant-coureurs d'un ralentissement dans l'immobilier. Pour autant, il y a encore de l'épargne disponible pour l'immobilier. Pour autant, les taux d'intérêt, quoi qu'on en dise, même s'ils augmentent, restent quand même superbement attractifs. La rentabilité de l'immobilier est supérieure au taux d'intérêt. Attention toutefois au loyer qui pourrait être ne pas suivre cette inflation. Donc tout ça se tient. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, au 30 avril, on n'a pas eu de décélération des prix, sauf à Paris.
C'est plutôt un ralentissement de l'augmentation.
Voilà, plus 7,2%, 12 mois, plus 7,9% France entière, 12 mois glissant au 30 avril. Mmh. En revanche, les remontées de terrain que l'on a là, maintenant, c'est incontestablement un ralentissement de la rapidité avec laquelle on vend, un début de reconstitution des stocks, et enfin, des banquiers qui sont quand même sélectifs sur les dossiers qu'ils sont en train de financer, avec des taux d'apport qui sont quand même plus conséquents, entre 16 maintenant et 30%, qui sont plus conséquents que ce qui était exigé il y a seulement un an. Et ça, ce taux d'apport, c'est mathématiquement écarté un certain nombre de nos concitoyens de la capacité d'acheter.
Notamment les primo-accédants.
Et notamment les primo-accédants, même si on espère des mesures de redistribution intergénérationnelle avec le nouveau gouvernement, mais mathématiquement, c'est sûr. C'est aussi, moi, je ne m'empêcherai pas de le penser, une forme de défiance et de garantie supplémentaire que les établissements financiers s'octroient par rapport à une évolution du marché. Quand vous demandez 20% d'apport personnel et que vous avez une sûreté sur le prêt, sur l'intégralité du bien, on peut imaginer que si cette sûreté venait à jouer et que le bien devait être saisi et revendu, ces 20%-là peuvent être la marge, j'allais dire, de négociation permettant de rembourser le prêt. Et donc la marge de défiance par rapport à une évolution de marché. Ne me faites pas dire que les banquiers pensent que le marché va baisser de 20%, mais voilà, il y a quand même, si vous voulez, un jeu là de garanties complémentaires par l'apport personnel, et c'est presque plus là aujourd'hui que je regarde avec beaucoup d'attention que les taux d'intérêt qui restent encore quand même facialement par rapport à l'inflation extrêmement attractifs.
D'ailleurs, les banques aujourd'hui, lorsqu'elles évaluent, elles envoient un expert immobilier lorsqu'il y a de l'investissement locatif, vous savez, comme c'est l'usage pour des prêts d'investissement locatif, la dépréciation retenue, elle est de moins 30% quand même, hein, par rapport au prix. Donc on voit bien qu'effectivement, la fébrilité des banquiers aussi fait qu'on est sur une certaine réserve. Dernier sujet, rapidement, le calendrier, ça y est, on est en plein dedans, hein, calendrier sur l'augmentation des loyers. On voit bien que sur les 7 lettres énergétiques, commence à s'engager ce fameux calendrier fixé par la loi climat et résilience, sur la rénovation énergétique de ce qu'on appelle, à tort ou à raison d'ailleurs, les passoires thermiques. Vous avez été l'un des premiers, Jean-Marc Torollion, à alerter sur le volume nettement supérieur que ceux que le gouvernement avait communiqué. Et vous avez alerté sur le risque systémique au niveau du logement. Vous êtes allé loin dans la démarche. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En juillet, certaines augmentations de loyers ne pourront pas avoir lieu. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grandes tendances de cet élément et de cet enjeu majeur qu'est la rénovation énergétique?
Oui, c'est-à-dire que les logements G qui dépensent plus de 450 kWh au mètre carré d'énergie primaire ne peuvent plus être augmentés. Cette fraction,
à partir de juillet 2022.
Cette fraction-là, elle est relativement faible. On l'estime entre 60 et 90 000 logements, mais c'est ce qui suit. Qui va nous intéresser au premier chef, c'est la sortie progressive de près d'un million de logements G du parc privé locatif d'ici 2025. Et ça, c'est là où nous disons, attention, le calendrier n'est pas tenable. Il n'est pas tenable au regard d'une production de logements neufs qui est en berne et dont on sait le temps qu'il faut pour la relancer.
Et on sera déjà en 2025.
Et par ailleurs, on a une impossibilité aujourd'hui de réussir cette rénovation dans les logements collectifs parce que les temps de prise de décision sont importants. Et puis, on n'a pas encore tous les outils, notamment le plan pluriannuel de travaux, le DPE collectif, nous ne l'avons pas. Bon, donc à un moment donné, il faut être sérieux. Il faut d'une façon pragmatique, constater l'impasse dans laquelle on est. Et de cette impasse, en sortir par le haut, il ne s'agit pas de renoncer à cet objectif. Je fais simplement remarquer, par exemple aux écologistes qui nous écouteraient, que ce n'est pas parce qu'on rénove 40% du parc privé locatif qu'on va tenir nos objectifs de climat et résilience, parce qu'il reste quasiment 29 millions de logements derrière. Hein, voilà. Donc et de ce point de vue-là, l'Europe est beaucoup plus pragmatique, puisqu'elle dit tout léger en F, mais d'ici 2030, mais quel que soit le type d'occupation. Et c'est assurément comme ça qu'il faut raisonner. Alors, on a l'audit énergétique obligatoire qui va rentrer en vigueur, le décret est paru au 1er septembre. Je rappelle que cet audit est obligatoire pour toutes les ventes de monopropriétés classées F ou G à compter du 1er septembre. J'entends d'ici et là qu'on serait prêt ou pas prêt, les diagnostiqueurs, etc. Mais enfin bon, à un moment donné, il faut avancer, et puis il faut forcément respecter la loi. Mais encore une fois, l'impact, on va le mesurer. Et moi, j'ai été alerté par la Fédération française du bâtiment. Parce que qui dit rénovation énergétique dit travaux. Or, aujourd'hui, les devis que nous recevons et que nous allons recevoir de la part de nos amis du bâtiment, les prix seront pas, on pourra plus traiter au forfait. Les prix ne seront plus fermes. Les prix seront révisables parce que personne ne sait où on va.
Exactement.
Donc, quand vous faites voter des travaux en copropriété sur des prix révisables, c'est une autre démarche. Et le débat a lieu dans ma commission syndic cet après-midi même pour savoir quelle démarche on adopte. Que lorsque nous votons des travaux, c'est vrai qu'on les fait exécuter 9 ou 10 mois plus tard, et comme 9 ou 10 mois plus tard, aujourd'hui, aucune entreprise du bâtiment n'est capable de s'engager, comment voulez-vous qu'on réussisse?
Et d'ailleurs, à ce sujet, je crois savoir, Jean-Marc Torollion, c'est pas un secret, que la FFB, la Fédération française du bâtiment, vous a contacté à ce sujet pour vous alerter sur un point, lequel?
Oui, la FFB nous a alerté sur le fait que, attention, on ne pourra plus tenir des devis avec des prix fermes et définitifs sur 10 ou 11 mois. Il va falloir accepter des révisions de prix.
Logique.
On est prêt à l'entendre. Et je compte bien en discuter d'ailleurs avec Olivier Salleron. Et encore une fois, on en discute cet après-midi au sein de la commission syndic. Sauf que nous, il va falloir adapter nos méthodes de financement. Et il va falloir qu'on anticipe. Il va falloir indexer peut-être sur des indices.
C'est l'idée de signer une charte avec la FFB.
Oui, c'est déjà
un code de bonne conduite en disant voilà, les devis qui sont donnés pourraient être révisés dans telle proportion. Il y aura des limites forcément.
Non, la première chose, c'est d'abord techniquement donner les outils à nos adhérents syndicaux pour pouvoir faire face à ce type de devis.
Ça va pas être évident
dans le cadre de la réglementation. Voilà, donc il va falloir techniquement leur donner les outils. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir essayer, à mon sens, de trouver une forme d'indexation. Et la faculté de faire jouer ou pas cette indexation, avec un peu de transparence pour que les copropriétaires aient le sentiment qu'effectivement, les coûts qu'on leur propose in fine sont corrélés à une réalité objective de la part de nos fournisseurs en matière de rénovation énergétique.
C'est très clair. Merci beaucoup Jean-Marc Thorion. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on va suivre avec beaucoup de vigilance, puisque c'est simple, nous sommes en plein dans le calendrier, donc on aura beaucoup à communiquer là-dessus, toujours aussi dense et intéressant en termes d'informations. Merci Jean-Marc Thorion.
Merci.
Président de la FNAIM, fnaim.fr, vous avez toutes les informations sur le site, mais aussi sur l'application de Radio Immo. Passion Logement, c'est terminé pour ce numéro. On se retrouve avec grand plaisir le mois prochain. Salut Jean-Marc.
À bientôt.
Passion Logement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.